Bon, pas mal de choses ce matin, parce que, veux pas, faut se placer un peu dans une perspective de reprise éventuellement. Ouais. M. Legault l'a dit hier pour l'ensemble de l'économie.
Je sais que pour bien des gens, tu parles de sport professionnel, les gens vont dire, bon, il y a des affaires plus importantes que le sport.
Oh oui.
Mais le sport professionnel, c'est une business de plusieurs milliards de dollars, et c'est pas seulement les athlètes qui font des millions par année. Il y a des... paquet de gens qui travaillent pour les organisations sportives, pour les ligues, qui ne gagnent pas des millions, là, et qui aujourd'hui se retrouvent à la maison puis qui attendent un chèque de 2 000 $ du gouvernement fédéral. Alors, on va revenir un peu sur les enjeux qu'on a abordés hier avec Ray Lalonde. D'abord, Ray, peut-être parce que, évidemment, les organisations sportives ont été beaucoup sollicitées pour contribuer, faire leur effort de guerre, là, si je peux utiliser l'expression. Est-ce qu'il y a des gestes de générosité qui t'ont marqué davantage que d'autres?
Oui, ben je pense que c'est important de souligner là, qu'on peut pas couvrir tout le monde, puis des équipes locales jusqu'aux équipes internationales, tout le monde fait sa part. Ça, c'est important. Je souligne ce que Stephen Ballmer, qui est le cofondateur de Microsoft, qui n'est plus avec Microsoft, évidemment, mais il est le propriétaire des Clippers de Los Angeles, qui a remis 25 millions de dollars la semaine dernière. Je pense aussi à Jack Dorsey, qui est pas dans le sport encore, mais c'est le fondateur de Twitter, qui a signé un chèque un peu plus tôt cette semaine pour 1 milliard de dollars, qui va aller à différentes causes. C'est tout dans la lignée de ce que Bill Gates avait fait lui-même en créant une espèce de mouvement de philanthropie privée. Puis je pense que c'est très important, c'est même essentiel dans une situation pareille que les athlètes et que les grands dirigeants du monde se mobilisent. Il y a Rafael Nadal et Pau Gasol, deux athlètes espagnols qui se sont engagés à lever 12 millions de dollars pour le problème réel en Espagne, qui est très, très grave. Je pense à Joe Tsai, qui est un Canadien chinois, qui est le fondateur de Alibaba, une des grandes compagnies de commerce en ligne, mais aussi le propriétaire des Nets de Brooklyn, qui lui est allé avec de l'équipement, 2,6 millions de masques, 170 000 paires de lunettes, puis 2 000 ventilateurs. Alors, les gens font des choses différentes. Robert Kraft, le propriétaire des Patriots, a envoyé son avion littéralement en Chine pour revenir avec quelques millions de masques qui étaient essentiels dans la région de Boston et de New York. C'est très important de le souligner, même si c'est pas nécessairement ici avec nous, c'est des contributions tous ensemble, si on veut.
OK, on va revenir un peu sur la conversation qu'on avait hier là, sur l'après-pandémie. Et on se demandait là, comment les organisations sportives allaient se comporter. Est-ce que ça va être plus facile pour les sports individuels, comme le tennis, par exemple, le golf, cette reprise que pour les sports d'équipe?
Ouais, je pense que oui, mais toute chose étant avec prudence. Là. T'sais, le golf et le tennis, c'est des sports où il y a moins de gens d'impliquer dans l'opération d'un match. Donc, le concept de revenir au jeu plus rapide pour le golf, quand tu as deux joueurs ou trois joueurs sur un terrain, plus trois cadets, quelques caméramans, un responsable du drapeau. Tu sais, tu pourrais faire un événement de golf avec une douzaine de personnes seulement par trou. Fait que tu sais, c'est relativement gérable. Évidemment, tout le monde doit être testé avant. Le tennis, ben, t'as les ramasseurs de balles, garçons et filles qui sont là, t'as les officiels qui mesurent les lignes et les deux joueurs, mais il y a quelques fois que les balles touchent l'autre joueur. Donc là, il y a un petit risque de ce côté-là. Mais encore une fois, si tout le monde a été testé, puis là, on parle, Alain et Paul, bien sûr, à huis clos, toujours.
Oui.
Non, mais je vais te donner l'exemple, la chasse. Chasse au dindon, puis tout ça, là. On est là-dedans, là. Puis,
la pêche.
La pêche, puis tout ça. Mais là, les gens vont devoir demeurer le plus possible dans leur région, tu comprends? C'est pas interdit, là, mais il va falloir que tu demeures dans ta région. Fait que, tu sais, les gens qui partaient, là, mettons, de Montréal pour aller à, je sais pas, Saint-Zénon, là, pas certain que ça va se faire aussi facilement
t'sais,
que
moi,
ça.
J'ai apprécié ce que le Dr Weiss a dit plus tôt, là, l'espèce d'étape, le choc, le retour à la normalité,
ouais.
L'ajustement, puis les habitudes. Mais ça va être ça pour le sport. Ça va être ça pour toute la société. C'est qu'on va devoir en revenir un peu, se normaliser, commencer graduellement à se replonger, prendre certains risques. Mais les rassemblements de foule, comme on les a vus dans le passé... Moi, je suis pas certain qu'on va voir ça avant longtemps là, pour les événements sportifs et culturels. Parce que quand tu as quelqu'un d'assis coude à coude avec toi ou dans un concert, tu respires littéralement la personne devant toi parce que tu es empilé contre le stage, si tu veux. Pas simple là, à imaginer comment ça, on va revenir à ça. Mais le tennis et le golf, pour moi, sont des sports qui pourraient revenir beaucoup plus tôt en termes de diffusion que des sports de contact, basketball, football et hockey, bien sûr.
Il y a Claude Julien qui a dit cette semaine qui s'attendait à la reprise à voir ses joueurs arriver en bonne forme physique. Mais moi, je lisais, je donnais comme exemple tantôt à Paul, un peu plus tôt dans l'émission, là, les Sports Illustrated ont mené une série d'entrevues avec des femmes de joueurs de baseball. Tu sais, c'est la femme du joueur de deuxième but des Blue Jays qui lui fait des roulants. Il y en a un autre, c'est sa femme qui agit comme catcher pendant qu'il lance. Alors, on peut penser qu'il ne doit pas lancer les mêmes balles qu'il lance dans un match. L'autre, c'est sa femme qui sert de poids et haltère quand il fait des squats. Tu sais, moi, je me demande dans quelles conditions physiques ces gars-là vont arriver quand ils n'ont pas accès à un gymnase aussi bien équipé qu'ils ont dans les sites d'entraînement. Pour les joueurs de hockey, ils n'auront pas mis les patins pendant 3, 4, 5 mois. Écoute, là, puis on va être pressé de recommencer à jouer, là.
Oui, t'as raison, Alain. C'est sûr que, selon moi, la préparation physique organisée, là, puis nécessaire, ça va varier entre 3 et 4 semaines pour les sports d'équipe, avec une semaine, 10 jours de réorganisation logistique et administrative. T'sais, tu peux pas régler tout ça, puis le lendemain, ça part à zéro, là. T'sais, il va falloir que tu puisses procéder graduellement. Mais tu vas avoir besoin de camps d'entraînement, tu vas avoir besoin de matchs, que ce soit au baseball, que ce soit au basketball, peu importe. Alors, il y a besoin de patience avec ce dossier-là. Puis, en plus, tu deals avec 50 États américains, 10 provinces canadiennes. Il faut que tout le monde soit revenu au même point de départ. Parce que qu'est-ce que ça va faire pour essayer de tenter d'avoir une cédule de match avec des régions plus ou moins affectées? Ça, c'est un facteur.
Merci beaucoup. On vous retrouve demain, 8h31. Toujours la 13, c'est comme ça depuis très tôt.